PowerPoint pour le projeter, mais c'est pas grave, vous écoutez. Hein. Vous connaissez ces versets dans Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et c'est ce que nous avons tous fait en disant, Seigneur, nous on choisit la vie qui est en toi. Et on choisit la vie et la vie éternelle. Donc Dieu met devant nous, devant l'être humain, un choix. Et ce choix, c'est pas une bénédiction. Vous savez, quelquefois on dit, j'ai été béni là dans telle chose, le Seigneur m'a donné une bénédiction. Mais là, c'est pas ça que dit la parole. J'ai mis devant toi la bénédiction. C'est très différent de une bénédiction, c'est la bénédiction, c'est un état qui demeure, c'est la faveur de Dieu sur toi. J'ai mis devant toi la bénédiction, la faveur de Dieu pour toi. Choisis la vie afin que tu vives, et toi et ta postérité, que tu rentres dans cette bénédiction. Donc, la volonté de Dieu, c'est de mettre la bénédiction sur nos vies. Vous savez aussi que dans Deutéronome, toujours, Dieu dit à son peuple, « Je ferai de toi la tête et non la queue. » La tête et non la queue. Pourquoi la tête et non la queue? Parce que la queue, j'observe des fois des lézards, la queue, elle suit. Hein. Mais la tête, elle décide. La tête, elle est celle qui oriente. Elle est celle qui la tête, elle est supérieure à la queue. Eh bien, Dieu dit, je ferai de toi la tête. Et tu seras toujours en haut, tu seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Il y a une commission, lorsque tu obéiras. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu seras jamais dans le désespoir total. Tu seras toujours avec une espérance. Dieu met devant nous, et Dieu veut mettre sur nos vies, la bénédiction. Il faut bien comprendre ça. À un tel point que cette bénédiction, je vais faire un commentaire après pour pas qu'on se trompe, hein, mais cette bénédiction, il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui le montrent. J'en ai pris un qui est bien connu et que... quelquefois on cite dans la troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Celui qui écrit ça, c'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Jean. Vous voyez, je pourrais dire quelqu'un qui est un chrétien, qui n'a peut-être pas tout compris de l'évangile. Non, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre, qui est toujours avec le Seigneur, celui qui est l'apôtre bien-aimé du Seigneur, et il va dire, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé. » Pourquoi il dit ça? Mais parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que nous prospérions à tous égards. Je fais tout de suite le commentaire. Il ne s'agit pas de la prospérité, de l'évangile, de la prospérité, comme certains le prêchent. Tu viens à Dieu, ton compte en banque va se remplir. Non, non, c'est pas ça. Mais que tu prospères. Que tu prospères dans la foi. Que tu prospères dans l'amour. Que tu prospères dans la paix. Que tu prospères dans la joie. Que tu prospères. Que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Et c'est vrai que Dieu peut aussi te bénir. Il peut aussi te bénir dans les choix de la vie, dans prospérer, être béni. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit ça. C'est pas une formule de politesse. Vous savez, quelquefois, quand c'est... le 31 décembre, on envoie les vœux, on reçoit des cartes de gens du monde, voilà, je te souhaite la santé, la richesse, la... Non, c'est pas de ça dont parle Jean. Jean, c'est un homme éminemment spirituel. C'est le merveilleux apôtre Jean. Et il dit à son ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Regardez encore, je prends un autre verset qu'on connaît. On lit tous la même Bible, hein. Heureusement. Matthieu 7, 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Je vais vous poser une question face à ce verset. On le redit. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'il y a une limitation? Est-ce que le Seigneur dit quelquefois, quand tu vas demander, quelquefois tu vas recevoir? Est-ce que le Seigneur dit quelquefois, si tu cherches, tu peux peut-être trouver? Est-ce qu'il dit si tu frappes, ben quelquefois ça va s'ouvrir? C'est pas ça. La parole du Seigneur, c'est quiconque demande, reçoit. Il demande avec foi, il demande à son Dieu, il demande pas... vous savez, quand vous êtes en train de mourir, comme je vous dis, vous dites, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu me relèveras, et vous le dites de toute votre foi. Hein? Il n'y a pas de limitation. Pourquoi il n'y a pas de limitation? Mais parce que Dieu veut mettre la bénédiction sur nos vies, et qu'il n'y a pas de limitation. Vous me suivez? À tous égards, il va dire, Jean, que tu prospères et sois en bonne santé à tous égards. Je prends trois personnages de la Bible. On aurait pu en prendre d'autres, hein, je pense cela. Salomon. Salomon, un homme que Dieu a béni, manifestement, d'une manière formidable. Vous savez que Salomon, un jour, fait un songe et il dit au Seigneur, donne-moi la sagesse, et Dieu lui donne la sagesse. Et Dieu va même lui dire, puisque tu n'as rien demandé pour toi, mais tu as demandé pour conduire mon peuple, ben je vais te donner aussi la richesse, etc. Et Salomon va être... un roi d'une richesse incroyable. Il nous a dit qu'à Jérusalem, l'or était plus fréquent que les pierres. Quand vous allez à Jérusalem, je peux vous dire, c'est très caillouteux. Hein. Donc, il a été béni matériellement. C'est pas un but, c'était pas le but de Salomon. Comprenons bien ça. Salomon ne recherchait pas ça. Il a demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. » Et Dieu lui a dit, « Eh bien, je vais te la donner, mais je vais en plus te bénir. » Bon, il a été béni. Prends un autre personnage qui nous est cité dans la Bible, Bartimée. Bartimée est au bord du chemin, il est aveugle, il est mendiant, et il entend Jésus qui passe, il crie, il crie, il crie, et il va être béni d'une bénédiction. Incroyable. Au début, les apôtres lui disent « Tais-toi, tais-toi », il crie encore plus fort. Et le Seigneur va lui rendre la vue. Waouh ! Va lui rendre la vue. Quelle bénédiction pour un homme aveugle. Quelle bénédiction. Je vais prendre un autre, Pierre. Pierre, c'est un personnage, j'allais dire, qui sur lequel on peut faire plein de commentaires. Pierre, au départ, c'est un pêcheur, de métier, je veux dire. Hein, pas, il est pêcheur, oui, comme tous les hommes sont pêcheurs. Hein, mais c'est un pêcheur de métier. Il pêche des poissons, lui. Hein. Et parce qu'il va suivre le Seigneur avec quelquefois des hauts et des bas. Hein. Il a la foi d'enjamber le bastingage, mais il regarde les flots, il a peur. Vous voyez, sa foi, elle est d'un côté pleine d'un dynamisme extraordinaire, et d'un autre côté, des fois, elle manque un peu de constance. Et d'ailleurs, le Seigneur va le lui reprocher. Hein. Mais ce Pierre-là, il devient le grand apôtre Pierre auquel le Seigneur va dire « Paix, mes brebis ». Waouh ! Il est celui dont le nom est célèbre dans le monde entier, au moins dans 2,4 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. L'apôtre Pierre. Pas rien. C'était un simple pécheur. Voilà la destinée de Pierre que le Seigneur lui a donnée. Waouh ! Quelle bénédiction ! Quelle bénédiction ! Alors, et la parole de Dieu me dit, c'est le Seigneur qui le dit dans Jean 14, versets 12 et 13, « Celui qui croit en moi, combien sommes-nous ce soir qui croyons en Jésus ?» Levez-vous vos mains. Alléluia, levez-vous vos mains. Hein? Parce que ça nous engage. Hein? Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Waouh! Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a des versets comme ça, quand je les lis, je dis, Seigneur, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui... faut que je comprenne. Faut que je comprenne, parce que tu dis, celui qui croit en moi, mais je crois en toi. Je t'ai donné ma vie. Je me suis engagé dans les eaux du baptême. Je te sers. Toute ma vie est pour toi. Celui qui croit en moi, il fera des choses plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et Seigneur, quelquefois, nous ne voyons pas des choses plus grandes. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et quelquefois, on a le sentiment qu'on demande et qu'il n'y a pas d'exaucement. Je me trompe ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, face à cette parole, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate des limitations chez nous. La volonté du Seigneur, c'est celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La volonté de Dieu, c'est la bénédiction sur nos vies. Mais, nous devons être honnêtes, nous constatons des limitations. Alors, la question, c'est d'où viennent ces limitations? Parce que si on comprend d'où elles viennent, alors on peut peut-être modifier des choses. D'accord? Un petit peu comme un médecin qui a besoin de faire un diagnostic pour après faire ce qu'il faut pour guérir la personne. Si je sais d'où viennent ces limitations, je peux dire, Seigneur, je veux changer ces limitations en moi, je veux repousser les limites, je veux... Mais si je ne sais pas, alors je reste comme je suis. Vous êtes d'accord avec moi? On essaye de comprendre d'où ça vient? Alors on prend la parole de Dieu, vous avez vos Bibles. On va lire dans 2 Rois 13 un passage que certainement vous connaissez, hein, puisque vous lisez la même Bible que moi depuis des années aussi. Hein. 2 Rois 13, 14. Ça commence au passage, ça commence par cette parole, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Bon, vous voyez, lui aussi, ses jours étaient comptés. Hein? Et pourtant, il n'avait pas péché, c'était Élisée. Hein? Bon, Élisée. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça, c'est un écho de ce que Élisée avait lui-même dit lorsqu'il a vu Élie monter au ciel. Hein? Il avait dit, char d'Israël et sa cavalerie. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, mais le prophète, c'est celui qui est le symbole visible de la puissance de Dieu qui est avec nous. Et il partait, il disait, mais c'est la vraie force de l'armée de l'Éternel, les vrais chars, la vraie cavalerie, mais c'est lui. Et le roi ici le lui redit. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Donc vous comprenez bien la scène. Hein? Le roi bande l'arc, ça veut dire il tire la flèche comme ça. Et là, Élisée, il vient et il met ses mains sur les deux mains, ses deux mains sur les mains du roi. On comprend qu'il y a quelque chose de symbolique là. Hein, c'est pas naturel. Quand on tire une flèche, il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui colle ses mains sur les mains. Donc il y a quelque chose de particulier. Et il dit au roi, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il ouvrit, Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends mes flèches. Il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. C'est-à-dire, au lieu de tirer par la fenêtre, tire-les par terre. Au passage, tirer par terre n'a pas beaucoup de sens. Mais tirer par la fenêtre, au hasard, n'a pas plus de sens. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas, quand on tire avec un arc, c'est pour viser quelqu'un, c'est pas pour tirer au hasard. Donc quand on tire au hasard par la fenêtre, ça n'a pas de sens. Pas plus que quand on tire par terre. Frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Dur. La bénédiction de Dieu ne s'arrêtait pas à trois. La bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu ce jour-là pour le peuple d'Israël, pour le roi Joas, elle était prête à aller beaucoup plus loin. Qui a limité la bénédiction, la délivrance du peuple? C'est pas Dieu. Le prophète lui dit, si ta foi, le prophète, c'est pas la peine qu'il lui explique, le roi a bien compris que quand il met ses mains sur les mains et qu'il lui dit c'est une flèche de délivrance, c'est quelque chose de prophétique. Le prophète, il lui annonce quelque chose de prophétique et le roi, il n'est pas bête, il a bien compris ça. Et quand le prophète lui dit tire sur le sol, il tire trois fois et il s'arrête. Et le prophète lui dit, voilà, ta foi, ben, elle limite. Un jour, je prêchais là-dessus, il y a bien des années, j'étais pasteur à Versailles, et il y a un frère qui est allé, après avoir entendu ça, il est allé chez un armurier, l'acheter un arc de concours. Alors, c'est un arc métallique. Puis un jour, il m'a invité à manger, il m'a dit, Jean-Luc, tiens, bande l'arc. Je suis arrivé péniblement une fois. Il me dit, peut-être que, au bout de trois fois, le roi, il n'avait plus beaucoup de force. Hein? Parce que, il y a quelque chose là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était prêt à une délivrance plus grande, mais il fallait un effort. Un effort de la foi, un effort... j'allais dire presque physique du roi pour dire ok, je m'accroche à cette délivrance, je l'avoue. Et il y a un enseignement pour nous. Si je crois que le Seigneur est celui qui veut vraiment me bénir, alors je vais faire comme cette veuve, vous savez, qui va voir le juge unique et qui lui casse les oreilles. Il lui casse la tête, elle revient, il la met dehors, non, elle revient. Et le Seigneur dit, si elle le fait, si un juge unique finit par se laisser convaincre, à plus forte raison, votre Père Céleste. Donc vous voyez, là, c'est le roi qui limite la délivrance. C'est sa foi. C'est lui qui a décidé. Dieu aurait béni plus. Il aurait béni complètement, jusqu'à l'extermination. Mais... le prophète va lui dire, mais là, tu les battras trois fois, mais voilà, pas plus. Parce que ta foi, elle est allée jusque-là. On va prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Si vous avez toujours vos Bibles ouvertes, vous revenez un peu en arrière, c'est toujours Élisée. 2 Rois 4, 3, vous savez, c'est... On peut le lire, hein. 2, 4, on commence au verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien, rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants, ils lui présentèrent les vases, elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Connais bien ce texte, hein? Voilà. Une femme du peuple d'Israël, une femme qui respecte Dieu, qui honore Dieu, dont le cœur est ouvert, son mari aimait Dieu et servait Dieu. Et voilà qu'elle est veuve et qu'elle a deux enfants et qu'il y a des créances, elle a des dettes, elle n'arrive pas à payer ses dettes, elle n'a plus rien. Qu'un vase, un petit vase d'huile. Elle dit, les créanciers vont venir prendre mes enfants et ils vont en faire leurs esclaves. Et elle crie au prophète en disant, fais quelque chose pour moi. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. J'aime beaucoup, moi, la finesse de la parole de Dieu. Parce que le prophète lui dit, va demander des vases chez tes voisins. N'en demande pas un petit nombre. Qu'est-ce que c'est pour vous un petit nombre? Vous voyez, ça met cette parole-là, nous met devant un choix. Quand on lit ça, nous pensons quoi comme petit nombre? Pour vous, c'est quoi un petit nombre dans cette situation-là? Proposez-moi des nombres, des chiffres. 2, 3, 5. Vous voyez, c'est chacun de nous en a une notion de qu'est-ce que c'est qu'un petit nombre. Le prophète lui dit, et elle sait qu'il est prophète. Elle sait qu'il parle de la part de Dieu. C'est pas quelqu'un qui parle au hasard. Elle sait que c'est un prophète. Elle est allée vers lui parce que c'est un prophète. Et elle attend de lui une réponse qui est une réponse prophétique qui vient de Dieu. Et le prophète lui dit, va demander des vases, ne demande pas un petit nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas limitée. La bénédiction de Dieu, elle est pas, elle s'arrête pas à un petit nombre. Alors elle va, elle demande des vases. Le texte, je dis, j'aime beaucoup la finesse parce que le texte ne nous parle jamais du petit nombre qu'elle a, elle, a choisi. Et elle a dû en demander un peu plus. Et puis, vous avez lu le reste, elle remplit, voilà. Alors, c'est un miracle, hein, une petite fiole, elle remplit un vase. C'est déjà un miracle. Elle dit à son fils, donne-moi un autre. Elle continue, elle remplit un deuxième. Et puis, il arrive un moment donné, et elle dit à son fils, donne-moi encore un. Et le fils dit, mais il n'y en a plus. Qui a limité la bénédiction. C'est pas Dieu. Le miracle, il aurait continué s'il y avait eu d'autres vases. C'est pas Dieu qui a limité la bénédiction. C'est sa foi. C'est parce que elle a envisagé la réponse de Dieu à une certaine mesure. Elle n'a pas imaginé que Dieu pouvait faire bien au-delà. Si elle avait pensé ça, elle serait allée chez ses voisines, elle aurait dit « Donne-moi des casseroles, donne-moi tout ce que tu as, tiens, donne-moi la guitare, on va la remplir d'huile, donne-moi tout ce qui se remplit. » Je disais ça un jour dans une église, je dis « Non, la guitare, il ne faut pas la remplir d'huile. » Bon, pas la guitare peut-être, hein, mais vous comprenez ma pensée. Elle aurait dû aller demander tout ce qu'elle pouvait, mais elle-même, dans sa mentalité, dans sa pensée, elle s'est dit, ben ça, c'est suffisant. Et c'est elle qui a limité la bénédiction de Dieu. Alors, dans nos vies, je vous rappelais, hein, c'est la question qu'on se dit, pourquoi nous, il y a des limitations par rapport à cette bénédiction que Dieu veut faire couler sur nos vies. Je vais prendre un autre exemple que vous connaissez bien, c'est les femmes le matin de Pâques. Il nous est dit que, étant rentrées dans le sépulcre, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Mais il y avait des anges. Et les anges leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il vous l'avait dit. Et les anges sont très étonnés. Ils voient des femmes arriver qui cherchent dans un tombeau Jésus. Et ils disent, les anges disent, mais pourquoi vous cherchez Jésus parmi les morts, dans un tombeau, alors qu'il vous a dit qu'il serait vivant? Et c'est vrai, quand vous regardez l'évangile attentivement, c'est vrai que Jésus l'avait annoncé. Et qu'est-ce que... À cette question des anges, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi ça? Ben, la réponse, je crois qu'elle est assez simple. Parce qu'elles n'ont pas fait attention à la parole du Seigneur, parce qu'elles ont manqué de foi dans la parole du Seigneur. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, ce qui limite la bénédiction dans nos vies, ce n'est pas Dieu. C'est notre manque de foi dans sa parole. C'est notre manque de foi dans sa parole. Il est tout puissant, on le sait. Il dit et la chose arrive. Il ordonne, il existe. Je vous dis ça parce que, mes frères et sœurs, mon cœur a redémarré, le cardiologue ne comprend pas. Le cardiologue qui m'a opéré, il ne sait pas. Je lui dis, mais comment ça se fait? Il me dit, j'en sais rien. Normalement, quand le nœud du cœur, le nœud électrique du cœur est détruit, il est détruit, c'est irréversible. Chez vous, c'est reparti. Il dit, il ordonne, elle existe. On l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans la prière, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, hein, Genèse. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Seulement, nous mettons des limitations, parce que notre foi, on a un plafond. Vous savez, des fois, on entend ça en politique, il y a un plafond de verre. Ben, pour notre foi, c'est un peu pareil. On a un plafond de verre, mes frères et sœurs. Je vous propose que tout à l'heure, on prenne encore 10 minutes, on demande au Seigneur, « Seigneur, fais exploser le plafond de verre. Hein? Seigneur, que ces limitations, elles volent en éclats. Dieu a le pouvoir de ses promesses. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et c'est nous qui mettons une limitation. Alors, on va dire au Seigneur, « Seigneur, je crois que tu veux nous bénir, parce que ta parole nous dit, parce que tu as mis la bénédiction. » Et vous savez, quand Jésus va voir Marthe, après que Lazare soit mort, il va dire à Marthe, « Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Amen. Crois-tu que le Seigneur est la résurrection et la vie? » Dans ta situation qui est peut-être une impasse, dans ta situation qui est peut-être impossible, dans ta situation, dans ta maladie où tu te dis, Seigneur, là je ne vois pas le bout. Crois-tu qu'il est la résurrection de la vie? Alléluia. Crois-tu qu'il veuille te bénir? Combien de flèches tu vas tirer? Combien de vases tu vas apporter au Seigneur? Je n'ai pas dit, mais à travers les vases et à travers l'huile, on peut aussi voir là une pensée. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et combien de vases pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit va-t-on apporter au Seigneur? Ça dépend de nous. Lui, il ne limite pas la bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est illimitée. Et il veut mettre la bénédiction sur nos vies. Alléluia. Alors, je vous propose qu'on prenne encore... Il est 8h moins 5, on est d'accord, si on prend 10 minutes, un quart d'heure, ça vaut la peine, hein, de dire au Seigneur, Seigneur, on te demande, fais sauter le plafond de verre de nos vies. Hein. On veut voir